crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
Les regardeurs.
Come and go with me.
Ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous examinons une sculpture du divin Michel-Ange. Il s'agit de son fameux Bacchus, une œuvre en marbre de 2,03 m, réalisée en 1497 et conservée au musée du Bargello à Florence. L'œuvre de Michel-Ange a inspiré récemment un étrange livre d'art, une bande dessinée par l'auteur, réalisateur et critique d'art Hector Obalk, notre invité aujourd'hui. Écoutons-le justement à propos de ce Bacchus dans un extrait du film Michel-Ange 1 Sculpture, une production d'Arte de 2013.
La troisième sculpture connue de Michel-Ange est déjà toute personnelle. Il s'agit du Bacchus du musée Bargello à Florence. Bacchus, dieu du vin que l'on reconnaît à sa coiffe de vigne, à la coupe qu'il tient au bout de son bras, et au petit faune aux jambes de bouc qui se tient à ses pieds. Parce que c'est un chef-d'œuvre, mais aussi parce que c'est un groupe sculpté dont aucun des deux personnages n'est tourné du même côté. Enfin, parce que je n'ai pas de rail pour un travelling circulaire, je poserai ma caméra à 15 endroits différents autour de la statue, effectuant entre chaque point de vue une rotation centripète de 20 à 30 degrés environ. Top, c'est parti.
Ah là, voilà, là c'est intéressant, tout d'un coup là on voit apparaître la jambe droite, et on voit aussi que c'est que le marbre ne peut pas tenir avec deux jambes. Donc il s'agit de faire croire qu'il tient avec deux jambes, mais c'est faux. Il tient grâce au fait qu'il y a le faune et le machin. Mais tout le truc, c'est tout l'art de la sculpture, c'est qu'on s'en rend pas du tout compte, quoi. Et que c'est juste un personnage qui tient sur ses pieds. Alors qu'on pourrait pas faire tenir sur ses pieds, encore moins sur la pointe des pieds, comme lui, tiens.
Bacchus, le voici en marbre couronné de grappes et de feuilles de vigne, la tête légèrement penchée vers la coupe qui est élevée à la hauteur de son visage comme pour vous inviter à trinquer avec lui. Il en tient le pied entre le pouce et l'index de la main droite, les autres doigts mollement repliés vers l'intérieur, soulignant la détente du corps relaxé. Son buste à peine penché vers l'arrière entraîne dans sa légère bascule le bras gauche, lui, à peine fléchi, tandis que la balance du corps est rétablie par l'avancée du bassin qui fait s'arrondir le ventre du jeune dieu. Le pied droit, à peine posé sur sa pointe, le talon relevé, fait se plier légèrement la jambe droite tandis que la gauche est raidie. Le ciseau des deux jambes forme un angle ouvert qui laisse supposer un équilibre précaire que renforce la divergence de la ligne des épaules et de celle du bassin qui semblent se rattraper l'une l'autre. Derrière Bacchus, un jeune faune, espiègle, s'appuie sur une souche et tout en retenant le corps de l'adolescent, il chipe quelques grains de raisin sur une grappe qu'il écrase sur sa bouille rieuse. Sa cuisse velue et son chèvre-pied amènent une étrange sinusoïde dans la base de la sculpture, créant une liaison subtile et miraculeuse entre le dieu et son support. Nous, qui pour la plupart sommes plus petits que cette sculpture, pourrions bien nous attendre à en recevoir le poids sur les épaules si le dieu venait à trébucher, ce qui est plausible, tant les mouvements contradictoires agissent l'œuvre. Et il en va de même de toute la sculpture. Homme, mais féminin, enivré, mais au regard vif, en marbre froid, bien qu'une légère sueur paraisse en altérer par endroits le lissé, ameli par l'ivresse, mais puissant et prêt à bondir, joueur et dangereux, il est le Dionysos trompeur et inquiétant, le dieu des mondes obscurs et de la forêt immaîtrisée. Il est celui qui libère et maîtrise à la fois la violence animale et l'ivresse de la divine intoxication. Il est l'inspirant, l'excès et la retenue, le calcul et la maîtrise et la détente du plaisir.
Et ce n'est qu'après avoir longtemps tourné autour de cette statue, effectuant entre chaque point de vue une rotation centripète, que je me suis rendu compte de la prouesse de Michel-Ange. qui fut d'avoir imprimé dans le marbre la marche légèrement titubante de son modèle. Mais c'est vu d'en bas que la sculpture est la plus impressionnante, notamment lorsqu'en levant la tête vers sa face étonnée, je zoome sur la bouche d'ombre que le sculpteur tailla, laissant voir les quenottes du bel adolescent. Hector Obalk, 2016.
Patrick Boucheron.
Oui, c'est vrai que lorsque, on va dire tout au long de l'émission sans doute, que le récit, le grand récit de Vasari s'impose non seulement à l'histoire de l'art de la Renaissance, mais à l'idée même d'une histoire de l'art.
Exactement.
C'est-à-dire en fait...
Il crée un type, voilà.
Et le rapport entre l'œuvre d'art et son historicité est quand même un rapport complexe. Bon.
Il faut dire aussi qu'il était contemporain et que d'une certaine façon, c'est une source quasi journalistique et documentaire
source,
d'une certaine
oui.
façon.
Mais c'est plus qu'une source, parce qu'en réalité, on pourrait toujours faire une sorte d'histoire contrefactuel en disant, eh tiens, essayons d'écrire une histoire de l'art si on n'a pas Vasari.
Oui.
Alors, il nous manquerait, évidemment, des informations, encore que ces informations, lorsqu'elles ne sont que chez Vasari, sont le plus souvent douteuses, mm-hmm. mais il nous manquerait surtout l'essentiel, c'est-à-dire le système de valeurs. Les historiens de l'art anciens disaient, cet homme avait une faculté, enfin, avait un jugement extraordinaire, avait un goût formidable, puisque c'est encore le nôtre. Enfin,
ils ont oublié peut-être que c'était lui qui avait forgé notre goût.
Et voilà, et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que si on lit Diderot, Les Salons ou Baudelaire, leurs écrits sur l'art, eh bien, on crée un système de valeurs qui n'est plus le nôtre. Or, ce que dit Vasari, c'est Giotto, c'est formidable, Raphaël, c'est merveilleux, Michel-Ange est un génie, et on pense la même chose aujourd'hui.
J'ai donc la chance de recevoir aujourd'hui Hector Obalk, l'auteur de ce livre d'art en BD, paru aux éditions Hazan en octobre 2016. Bonjour Hector.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, merci.
Vous êtes critique d'art, réalisateur, auteur de documentaires consacrés à l'art le plus souvent, chroniqueur régulier pour le magazine Elle, et... vous avez eu diverses formations, graphisme, cinéma, d'autres métiers. Et qu'est-ce que vous préparez en ce moment ?
Je prépare un film sur Pontormo. Et donc je pense qu'il est meilleur que Michel-Ange, notamment dans les dessins.
Influencé par Michel-Ange en tout cas, dans la grande aventure du maniérisme.
Exactement.
Et très admiratif de son maître, dont il a repris tout d'abord les couleurs, peut-on dire.
Maître grincheux d'ailleurs, dans la personnalité de Michel-Ange, qui, très étonnamment, voyait en Pontormo un successeur digne de son nom. Le paradoxe est donc double, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui est meilleur que lui et qui est adoubé par Michel-Ange, personnage grincheux et mégalomane, qui va rater complètement sa carrière après la Sixtine et qui a une carrière prodigieuse avant la Sixtine.
Alors, vous allez m'expliquer pourquoi deux choses...
Je commence direct. Vous voyez, comme ça met un peu de l'ambiance.
vous allez m'expliquer deux choses. D'abord, pourquoi avoir choisi la forme de la bande dessinée ou du roman photo, je ne sais pas comment vous l'appelez et comment c'est le plus juste, pour parler des œuvres de Michel-Ange. Cette fois-ci, nous sommes dans le premier tome, un deuxième tome va sortir.
Donc après c'est la Sixtine.
Première période avant la Sixtine.
Jusqu'à la Sixtine,
Y compris la Sixtine. Et nous allons donc examiner la façon dont vous parlez. Nous avons entendu déjà dans l'émission, dont vous évoquez le Bacchus qui va être l'objet principal de notre conversation. Et donc pourquoi la BD et pourquoi en BD Michel-Ange plutôt que Léonard ?
Alors, d'abord, le mot BD est un peu embêtant, parce qu'évidemment, quand on dit « j'ai fait une BD sur Michel-Ange avec Michel-Ange », on pense tout de suite que j'ai dessiné Michel-Ange avec sa casquette au sommet de la chapelle Sixtine, en train de peindre, je sais pas, c'est comme si je mettais des bulles à la Joconde ou ce genre de choses. Non, non, c'est même, on pourrait dire, ça n'a rien d'une BD, à la fois, puisque il n'y a pas de... Enfin, s'il y a des bulles, puisque je parle parfois, mais disons que ce n'est pas comme une fiction, si vous voulez, c'est un essai. Donc de même qu'il y a un roman graphique, maintenant il y a de l'essai graphique. Et l'idée était très simple. Elle consistait simplement à dire que les livres d'art, que ce soit ceux de Elifort ou ce soit de Chastel, n'étaient toujours insuffisamment illustrés. Et moi, si j'ai un talent, peut-être le seul que j'ai, comme Brassens disait, vous savez, moi, je suis pas un grand poète, je suis pas un grand musicien, mais j'ai un talent, c'est que je sais faire une syllabe avec une note. Moi, si j'ai un talent, c'est que j'arrive à faire un quart de phrase et qu'il soit illustrable. Il y a beaucoup de gens qui baratinent, ils sont juste inillustrables. Moi, j'arrive à faire en sorte que, quoi que je dise, c'est à la fois concret et abstrait. C'est-à-dire que, quoi que je dise, les phrases défilent comme ça, et puis on voit les images, et à la fois on a le sentiment du zoom, c'est-à-dire qu'on est tout près du détail, mais à la fois, j'espère, du sens général de l'œuvre. Et donc, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait simplement d'illustrer les phrases d'un texte qui est de moi. Et comment on fait pour les illustrer, ces phrases? Quand on est dans un livre de Chastel, mais c'est une torture. Tout d'un coup, il vous parle d'une œuvre, et puis d'un détail d'une œuvre, et puis il faut aller 40 pages plus haut pour la voir. Elle est d'ailleurs très très mal photographiée, et en plus, on voit pas ce qu'il veut dire. Et on voit pas de quoi il parle. Il est beaucoup trop érudit, ses livres sont beaucoup plus érudits par rapport à l'illustration qui en sont le support. Moi,
donc,
non.
Donc, vous rééquilibrez le rapport entre texte et image.
Je rééquilibre. Alors, comment est-ce qu'on rééquilibre? Ça, c'est un vrai problème pour les gens qui font des livres d'art, et c'est en cela que mon livre n'est pas une BD révolutionnaire, mais tout simplement un livre d'art révolutionnaire. Parce que mes phrases, elles courent, c'est tout simple. Il y a des gens qui disent, bon, bah, très bien, tu vois, j'ai fait un paragraphe et puis je mets l'image à droite. Puis après, je cours. Manque de peau, à la quatrième page de leur texte, il y a quatre images qu'il fallait mettre. Mais sauf qu'elles sont à quatre images, elles sont à trois mots de distance. Alors comment on fait? On va mettre trois mots, puis mettre l'image, puis trois mots, puis tourner les pages, puis tout d'un coup, après, il n'y a que du texte. Ça va pas, il faut penser au lecteur. Alors moi, je me débrouille pour faire en sorte que toutes mes images répartissent les illustrations au fur et à mesure des pages. Mais donc, il faut savoir écrire comme ça. Et donc, j'écris de sorte que, quand vous avez une seule page, vous avez une phrase, c'est une phrase qui court sur des images.
Et alors, pourquoi Michel-Ange?
Alors, avant de vous répondre pourquoi Michel-Ange, je vais finir mon petit point parce que les gens sont pas assez clairs sur la mauvaise qualité des livres d'art d'aujourd'hui, donc j'ai décidé d'enfoncer mon clou là-dessus. Jusqu'ici, on avait inventé deux choses dans l'histoire du livre d'art, et même l'histoire tout simplement du rapport entre l'image et le texte. On avait inventé le texte illustré, on fait un texte, puis on l'illustre, au petit bonheur, la chance, en fonction des crédits que veut bien vous laisser l'éditeur, ce genre de conneries. Et puis alors, vous avez aussi l'image légendée. Vous avez une image, puis vous la légendez. Et les gens disent, je vais mélanger les deux. Alors, il faut un mélange des deux qui rompt complètement la continuité du texte. Moi, je fais rien de tout ça. J'ai inventé un truc qui s'appelle le kaléido, comme on dit, une vision kaléidoscopique, si vous voulez, comme on dit, je suis métaphore, hein, mettons, et qui fait que c'est ni l'un ni l'autre, c'est une phrase qui court sur des tas et des tas d'images, de sorte que vous avez en vision périphérique l'image, et vous avez en vision directe le texte, parce que c'est le texte qui l'emporte. Maintenant, à la question pourquoi Michel-Ange, alors là, c'est le hasard le plus grand, parce que moi, j'ai décidé d'être comme, de faire toute l'histoire de l'art.
Mais est-ce que vous avez trouvé, par exemple, que travailler sur ce principe-là d'images qui circulent autour de l'œuvre était plus juste par rapport à une sculpture que par rapport à un peintre?
Non, c'est tout aussi bien. Mon truc marche pour tout. C'est bon, tout est bon chez Dupont, comme dirait Salvador Dali. C'est-à-dire que le point, si vous voulez, c'est pourquoi est-ce que c'est mieux une BD qu'un film? Puisqu'en fait, tout ça, ce n'est qu'un storyboard de film. Eh ben, pourquoi c'est mieux la BD? Parce qu'on a du temps pour regarder les images. Alors évidemment, il n'y a pas la musique dans la BD. Bon, c'est sûr, il y a Bach qui est en moins, ou là, en l'occurrence, quand vous entendez tout à l'heure, c'était le Quatuor des Quintes de Haydn. C'est la même chose. Quant à la question, pourquoi Michel-Ange? Alors Michel-Ange, moi, c'est très simple. Moi, j'ai décidé de faire, depuis que je m'intéresse à la critique d'art, depuis que j'ai cette vocation, depuis donc que j'ai 13 ou 15 ans, je veux faire toute l'histoire de l'art. Vous voyez, moi, je suis pour remettre au goût du jour cette naïveté généraliste qu'avaient les historiens d'art à l'époque de Henri Faucillon ou d'Elifort. Donc ça a commencé par Michel-Ange, parce qu'il se trouve que j'avais plus de doc sur Michel-Ange, j'aurais pu être n'importe quoi d'autre.
Mais donc si vous avez décidé de travailler sur Michel-Ange pour montrer votre désir de passionner, de raconter toute l'histoire de l'art à votre façon, c'est que vous avez peut-être un propos particulier à tenir sur Michel-Ange.
J'espère avoir un propos particulier à tenir sur tous les artistes auxquels je me suis intéressé de près.
Et ce serait quoi sur Michel-Ange, par exemple?
Alors, sur Michel-Ange, il y a deux choses. Il y a le fait que c'est un révolutionnaire de l'anatomie, et que, après avoir beaucoup réfléchi à la question, je crois suggérer, si vous voulez, de résumer en quoi est-ce que, qu'est-ce qu'il apporte spécialement à la vision de l'anatomie, parce que savoir dessiner, on savait le faire quand même. Il n'a pas, même si, après mes recherches que j'ai fait auprès de chirurgiens, enfin pas de chirurgiens, de médecins, je suis maintenant absolument persuadé que Michel-Ange ne dessinait jamais de mémoire, qu'il dessinait toujours d'après modèle. Et ça, j'en ai à peu près la preuve, parce que j'ai fait inspecter une centaine de dessins auprès de médecins, enfin de gens qui sont spécialistes dans l'anatomie, des muscles, etc. Et il met des noms à tous les muscles, donc il n'invente pas de muscles, contrairement à d'autres.
Donc, on sait qu'il avait travaillé dès 1490, je crois, à l'hôpital Santo Spirito de Florence, qu'il avait illustré des livres d'anatomie. Donc c'est, effectivement, vous avez raison, c'était une connaissance, c'était pas une approximation.
Voilà, c'est un réaliste. Ce qui fait que Michel-Ange devient michel-angelesque, c'est qu'il fait exécuter à ses corps des figures de gymnastique qui font que il leur demande des choses qui ne sont pas très naturelles. Il leur demande de suivre une ligne droite parce que ça l'arrange pour un digne, nous dit de la chapelle Sixtine, qu'il y ait une ligne droite qui aille du bras au genou, au pied. Il s'agit toujours de suivre quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel de suivre. Et notamment, il les met dans des cabines téléphoniques, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que le corps, c'est comme si il tapait toutes les parois d'une cabine téléphonique, c'est-à-dire d'un
pareil. Je dis à nos auditeurs que pendant que vous décrivez, vous êtes en train de mimer dans des positions étranges les positions des ignoudis de Michel-Ange à la Sixtine.
Et là, en l'occurrence, pour les cabines téléphoniques, donc quand il s'agit vraiment de sculptures, il s'agissait plutôt des prisonniers qui se trouvent à l'Académie de Florence. Donc, il est vraiment quelqu'un qui demande de faire des tâches de gymnastique particulières à ces modèles, et qui sont des gymnastiques toujours simples et qui doivent justement faire contraster, si vous voulez, la simplicité de la ligne qu'il veut faire apparaître, c'est-à-dire la ligne droite, la diagonale, le cube, la cabine téléphonique, avec le réalisme, si vous voulez, de toute l'humanité qui doit s'intégrer à cette chose-là. De ce point de vue-là, il a un côté un peu artiste contemporain, c'est-à-dire il a un petit côté un peu grossier dans la manière de vouloir mélanger des extrêmes. Ça, c'est voilà ce que je pense du Michel-Ange d'avant la Sixtine.
Alors, le Michel-Ange, ce que vous décriviez, c'était quand même le Michel-Ange mais des esclaves.
Mais qui n'est pas encore chez Bacchus, parce que Bacchus, c'est une œuvre tout à fait particulière, pour laquelle j'ai une tendresse spéciale, et je pourrais en parler après si vous voulez.
C'est comme vous voulez. Ce que je vous propose, Hector Obalk, oui, c'est d'écouter à présent deux extraits de textes de contemporains de Michel-Ange, Ascanio Condivi, puis Vasari lui-même, le grand historien et artiste, tous deux biographes de l'artiste, puisque Michel-Ange fait partie des rares artistes qui ont eu deux biographies de leur vivant.
Sur son bras gauche, du Bacchus, est une peau de tigre, car cet animal lui est consacré comme étant très amateur de raisins. Mais cela pourrait représenter, car Michel-Ange voulut indiquer par là que ceux qui sont esclaves de la passion de ce fruit et de sa liqueur finissent par y laisser la vie. Ascanio Condivi, 1553. On voit dans cette statue, le Bacchus de Michel-Ange, une fusion merveilleuse, due plus précisément au fait qu'il est associé à la sveltesse de l'homme jeune, des formes féminines, rondes et charnues. Ouvrage admirable, démontrant une supériorité de statuaire sur tous les sculpteurs modernes jusqu'à lui. Vasari, la vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, 1550.
Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'émission Les Regardeurs et je suis avec Hector Obalk pour évoquer une œuvre de jeunesse de Michel-Ange qui est son admirable Bacchus. Ce Bacchus vous a intéressé particulièrement, j'ai eu l'impression, Hector Obalk.
Donc il a une place un petit peu à part, il n'est pas encore Michel-Angelesque.
C'est-à-dire qu'on est juste avant, pour situer peut-être, on est juste avant la fameuse Pietà.
On est avant la Pietà, le Bacchus il l'a fait entre 21 et 22 ans, la Pietà 22-24 ans. Bon, après commence un autre cycle chez Michel-Ange, notamment que l'on connaît surtout par les dessins qui nous restent. Des dessins d'ailleurs qui nous restent, dont je voudrais juste signaler qu'on n'en connaît que 1%. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait le calcul, il en a dû faire, j'en ai parlé avec Dominique Cordelier, il en a dû faire 100 fois plus. Si vous contenez juste 3 dessins par jour, vous pouvez être sûr que, vu l'âge à laquelle il est mort, on a très peu de choses de lui, on en a 350 ou 400. Quant à Bacchus de Michel-Ange, la seule chose qu'il aurait de Michel-Angelesque par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette volonté de faire soumettre le corps à des lignes rigides et artificielles, elle ne réside que dans le fait qu'il s'agit d'un groupe sculpté qui se regarde, on va dire, de face et de côté, je dirais du côté droit. Il se regarde au sens où il est face. Quand on peut le regarder face, et tout d'un coup, quand vous tournez d'un coup, comme quand on tourne autour d'un pâté de maison, on a le deuxième personnage, qui est le petit, j'ai oublié comment ça s'appelle, un petit enfant satyre.
Typhon, hein,
le petit faune, exactement, au pied de bouc, et lui, il est exactement perpendiculaire. Là où cette sculpture est partie, vous remarquez qu'il a des muscles ronds, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que de l'androgynie, il y a surtout une certaine mollesse de ce corps, qui n'est pas un corps d'Apollon, mais un corps de Bacchus. Tout cela est assez traditionnel. Quoi que je n'ai pas vu, et d'ailleurs ça m'a été confirmé par d'autres historiens, de modèle exact qu'on pourrait trouver chez l'antique d'un Bacchus pareil. Il s'agit véritablement d'une invention de sa part. Au muscle rond. Au muscle rond, c'est-à-dire, vous voyez, si, pour qu'on soit clair, plus proche de Richard Gere que de Kirk Douglas. C'est vraiment ce genre de physionomie qui existe. Je dis ça venu de vous faire sourire, parce que l'anatomie, je ne vois pas pourquoi elles auraient changé en 5 siècles. Donc on peut tout à fait faire la comparaison les plus parlantes.
La forme des muscles change beaucoup, hein, entre un homme des années 50 et un homme des années 80, c'est pas la même forme de muscles, moi, je trouve.
Non, c'est-à-dire
que je parle du 20e siècle.
Hein. J'entends, mais moi je ne pense pas. Je pense que c'est la publicité de l'image des muscles qui change, mais pas les muscles. C'est-à-dire que tout d'un coup, les femmes maigres sont à la mode, et puis après les femmes plus rondes sont à la mode, mais alors des maigres et des grosses, il y en a tout le temps, ça change pas. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Pour revenir au Bacchus, je dirais que il y a évidemment un suspense dans cette sculpture qui est vraiment d'une très grande sensualité. C'est-à-dire, bien sûr, il y a ce côté, il y a le déhanchement qui est vraiment ménagé de manière extrêmement zigzaguée, extrêmement musicale, qui est très très beau, etc. Et puis il y a ce moment un peu particulier que j'ai essayé de mettre en scène avec un certain suspense dans ma pauvre BD où on se dit, mais oui, il titube, mais oui, il va tomber. Ce « il va tomber », on le retrouve dans la Pietà.
Si vous regardez la Pietà, parce que le Christ glisse sur les genoux de la Pietà.
Quand on regarde bien, ouais. Quand on réfléchit bien, quand on se pose la question de où est le pied droit et le pied gauche de la Pietà, vu qu'il ne montre que le pied gauche, mais que le pied droit, on devine qu'il est sur un socle qu'on ne peut deviner qu'en regardant bien la sculpture, etc. On se dit qu'il ne peut que glisser. Ça donne évidemment quelque chose d'un peu émouvant que dans le marbre solide de ces sculptures, il y ait l'amorce d'un mouvement. Toute la sculpture se consacre à ça.
Vous parliez tout à l'heure de Pontormeau, le Christ de Pontormeau qui glisse sur les genoux de la Vierge dans la déposition, glisse exactement de la même façon.
Sûrement. D'ailleurs, Pontormeau fait toujours, fait tout à fait quelqu'un qui était fasciné par Michel-Ange. C'était son dieu. Il avait un dieu et il avait un maître. Son maître, c'était Andrea del Sarto. Quand on regarde la Madone des Offices, on voit qu'il a mêlé les deux, c'est-à-dire au côté sculptural du visage de la Vierge.
Andrea del Sarto, qui est surtout connu pour, qui est un des très grands peintres de la Renaissance, et qui est connu pour le fameux portrait de Laurent de Médicis, qui se trouve au Musée des Offices.
Et moi, que je retiens pour les couleurs chatoyante, le velouté, ce flou incroyable qu'il y a dans les chairs et dans les tissus, et qui n'existe évidemment pas chez Michel-Ange, parce que dans le seul tableau qu'on connaît de lui, à savoir le Tondo Doni, qui est le seul tableau à peu près sûr et certain de Michel-Ange, on est dans quelque chose qui annonce Bronzino, et pas du tout Pontormo.
Alors là, le Tondo Doni, c'est effectivement la première peinture connue de Michel-Ange, qui est... quoi, une quinzaine d'années après le Bacchus ?
Qui est, alors là, vous, non, il est en 1507, donc il faut calculer une dizaine d'années, oui.
Une dizaine d'années. Alors, simplement, vous parliez de... Il y a deux aspects dont j'aimerais bien que vous me parliez. Le premier aspect de ce fameux Bacchus, c'est ses muscles ronds et une légère mollesse. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et se dire que dans la figure même de Bacchus, il y a une hésitation entre le masculin et le féminin ?
Oui, tout à fait. Il y a toutes les hésitations qu'on veut, elles sont dedans, donc tous les critiques d'art sont très contents, ils peuvent faire tous les mots en disant c'est blanc et c'est noir, il tient debout,
mais pourquoi
il va tomber.
La question que je voudrais vous poser au bal, c'est pourquoi est-ce qu'il y a cette hésitation entre l'un et l'autre? C'est l'artiste l'a souhaité, qu'est-ce qu'il a voulu dire?
Non, mais c'est tout à fait cohérent avec le sujet. Bacchus est quelqu'un qui a une personnalité androgyne, une personnalité interlope, une personnalité qui apporte du plaisir et qui ne recule pas devant le mal. Il y a tout ça chez Bacchus, donc ça va.
Quand vous dites interlope, c'est ce que vous voulez.
Ça va bien dans ce
sujet. Ce que vous voulez dire, que c'est quelqu'un qui est sur la frontière des choses,
oui, voilà.
Entre le monde sylvestre et le monde de la cité, entre la raison et la déraison.
Voilà, toutes ces choses-là. On peut les aligner, on peut être littéraire, on peut dire la vie et la campagne, l'homme et la femme, le bien et le mal.
Mais vous ne croyez pas qu'il y a une volonté de signification lorsque
mais c'est tout ça, c'est une signification tout ça, mais elle ne relève pas de Michel-Ange. Oui. Mon problème à moi, si vous voulez, c'est que je ne veux pas trop rentrer dans les significations des œuvres si tout d'un coup je vois que c'est une signification de n'importe quelle autre œuvre. Il y a beaucoup de choses à dire sur une Pietà, il y a beaucoup de choses à dire sur une Descente de Croix. Mais à partir du moment où je parle de celle de Velázquez, je vais rien dire qui pourrait concerner une autre Descente de Croix. Du coup, ça censure mon propos. Parce que si je pouvais dire la même chose d'une œuvre qui serait une croûte, c'est donc qu'en tant que critique d'art, j'aurais échoué. Donc je ne vais pas commencer à disserter sur Bacchus, parce que je laisse Nietzsche et d'autres disserter sur Nietzsche, je prends juste ce qui m'arrange. Ou qui est utile pour essayer de lire une œuvre d'art. D'ailleurs, pendant très longtemps, moi, j'étais même pas au courant de ce que c'était que les Médicis et tout ça. Ça m'empêchait pas de connaître et de comprendre et de sentir, comme si j'étais derrière son épaule, l'œuvre de Michel-Ange.
C'est ça, c'est ce que vous appelez faire de la critique d'art et non pas faire de l'histoire de l'art.
Les historiens de l'art sont très utiles et je suis le premier à les féliciter pour leur travail, vu qu'ils nous apportent des dates. Et c'est surtout ça qui compte. Tout le reste, la mise en contexte, etc., ça, ils adorent. Mais pour moi, c'est de l'histoire, c'est pas de l'histoire de l'art. Les dates, c'est fondamental, parce que moi, je suis quelqu'un qui, d'un côté, fait ma danseuse, c'est-à-dire fait de l'histoire, fait de la critique d'art, joue au poète, qui est tente dans cet délire exact de d'évoquer les œuvres d'art dans ce dont je crois qu'elles ont de unique. Donc en censurant tout ce qui ne pourrait ne pas être unique. Et puis d'autre part, je suis un archiviste.
Alors justement, puisque vous êtes archiviste et amoureux de la particularité des œuvres d'art, il y a dans le même musée une autre œuvre d'un artiste qu'admire beaucoup Michel-Ange, qui est Donatello, et il y a le petit David de Donatello à l'étage du dessus. Et ce David de Donatello a exactement le même contrapposto, le même, quand je dis contrapposto, c'est-à-dire le même chiasme entre la ligne du bassin et la ligne des épaules que celui de Michel-Ange. C'était une œuvre qui a une 50 ans, qui précède de 50 ans l'œuvre de Michel-Ange. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un dialogue entre les artistes? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une recherche commune? Est-ce que dialogue conscient ou inconscient?
Que Michel-Ange ait mieux ait voulu faire railler avec les grands artistes florentins plutôt qu'avec les grands artistes de l'Antiquité? La réponse est oui, surtout que l'Antiquité, il la connaissait que depuis quelques mois, puisqu'il venait à peine à Rome quand il a fait son Bacchus, si je dis pas de bêtises.
Oui, mais vous, oui, est-ce que vous n'avez pas, j'ai pas entendu sur dire Donatello. Que Polyclète faisait partie des références de
non,
Michel-Ange,
non,
comme de l'époque?
Non, mais vous avez sans doute raison. Je suis pas plus au courant que ça, et puis je me méfie de tout ce qui ne relève pas de la source première, c'est-à-dire des écrits de Michel-Ange qui ne nous apportent pas grand-chose. Mais bon, c'est une chose. Maintenant, je voudrais quand même ajouter sur Donatello, vous dites contraposto, c'est-à-dire le fait que, en effet, la ligne des épaules, vous voyez, pour que les gens comprennent, hein, on met quelqu'un de tout droit, on a une ligne d'épaule. Admettons qu'on penche un peu les épaules, donc il va y avoir quelque chose qui va aller de gauche à droite. Et admettons qu'on penche la ligne du bassin dans l'autre sens, et voilà comment... voilà ce qui s'appelle le contraposto. À ce contraposto de Donatello, je voudrais juste dire que Michel-Ange a ajouté une torsion. un début de torsion.
Pardon, Balk, pour aller dans votre sens, parce que vous le mentionnez dans votre livre, il y a aussi, dans le compte, fait partie du contrat postal, la différence d'élévation entre les deux jambes, ce qui permet d'avoir ce mouvement dansant.
Je me suis peut-être mal exprimé, je veux dire, il y a donc bien deux lignes. Celle qui fait qu'il y a un mouvement de jambes qui permet de donner une inclinaison à la ligne du bassin et un mouvement d'épaule qui donne une peinture. À cela s'ajoute, mais chez Donatello, c'est dans le même plan, si je ne dis pas de bêtises. Alors que chez Michel-Ange, s'ajoute à ce contrapposto une torsion, c'est-à-dire le fait que la ligne du bassin et la ligne des épaules n'est pas dans le même plan, et là c'est de façon particulièrement subtile, et c'est particulièrement émouvant. Vraiment, cette œuvre est vraiment magnifique, c'est tout à fait... Elle aurait pu donner lieu à un artiste qui s'appelle le Bacchus de Michel-Ange. Je sais pas, parce qu'après il est allé ailleurs.
J'ai pas compris, ça peut tout à fait donner lieu à un artiste qui s'appellerait le Bacchus de Michel-Ange, qu'est-ce que ça veut dire?
Je veux dire par là que Michel-Ange est d'une telle créativité entre... pour ces quatre ou cinq premières œuvres sculptées, que chacune pourrait donner lieu à une carrière artistique, mais lui, il a changé de style. Si je passe, si vous voulez, de ce sarcophage, là, romain, là, qui s'appelle la bataille des centaures et des lapites, dans lequel il met pour la première fois plein de personnages ensemble. Si je pense à la Madone d'Escalier, qui est au bas-relief, si je vois après le Bacchus, qui est une sculpture prodigieuse de naturel et d'expressivité, ensuite la Pietà, ensuite le David, je pense que chacune de ces œuvres pourrait donner lieu à un artiste qui aurait fait carrière dans le style de la Pietà ou dans le style de Bacchus. Et d'ailleurs, Bernin n'a rien fait d'autre qu'être un enfant de la Pietà de Michel-Ange et non pas un enfant de Michel-Ange. On retrouve chez Bernin ce génie des plis qui se mêle aux chairs de la Pietà de Michel-Ange. On voit que Bernin est quelqu'un qui en a développé tout le vocabulaire pendant toute sa vie. Alors que Michel-Ange...
Alors, je voudrais vous poser une question sur Bernin, Michel-Ange, puisque vous évoquez cette question. Chez Bernin, il y a, pour parler de l'œuvre la plus connue du Bernin, qui est la Sainte Thérèse de Rome, il y a une représentation de l'extase. Il est évident que le thème de Bacchus est aussi lié à la volupté, à l'extase, à une notion, finalement, une philosophie de la morale, si je puis dire. Pour vous, qui êtes un regardeur scrutateur, le fait que ce Bacchus soit présenté en même temps, soit réalisé en même temps que la présence de Savonarole à Florence, est quelque chose que vous trouvez secondaire ou extrêmement important ?
Ça m'est complètement indifférent et je me refuserais à y voir un quelconque rapport. D'abord parce que je pense que tout ce qui est là en l'occurrence, tout ce dont vous parlez chez Bacchus, reste du domaine de quelque chose d'extrêmement subtil. C'est-à-dire que c'est juste un mouvement d'épaule qui fait que ce Bacchus n'est pas antique. C'est juste un arrondi des muscles qui fait que ce Bacchus sort du lot des sculptures de son époque. Et je vois pas du tout le rapport, sauf pour plaire aux historiens, qu'il y a à en tirer aux propos révolutionnaires de Savonarole et à son destin tragique. C'est-à-dire,
vous trouvez pas que c'est fantastique quand même d'un point de vue politique que cette œuvre immense qui a créé l'attention de tous les Florentins à l'époque et qui avait été commandée pour Rome et ramenée à Florence soit présentée à Florence pendant la République, comment dirais-je, talibane de Savonarole?
Bon, d'abord, la notoriété de Michel-Ange a commencé avec le David de Michel-Ange. Et c'est avant le David de Michel-Ange, qui est une œuvre qui est deux fois plus haute que n'importe quelle sculpture antique, normale, hein, j'insiste sur ce point, et ben sa notoriété restait confinée, à mon avis, au milieu d'experts. Donc, non, je vous suivrai pas là-dessus, mais surtout, j'ai pas d'argument pour dire que vous avez tort.
Ça m'intéresse que vous trouviez ça secondaire. Votre point de vue, c'est intéressant, ça m'enrichit.
C'est très gentil de dire ça. Je voudrais ajouter un autre point. C'est que, le problème qu'on a avec la sculpture, dans les livres d'art, c'est que, quand vous faites des livres sur la sculpture, les gens mettent, parfois quand ils sont un peu sérieux, ils mettent trois photos. Moi, j'en mets 18. C'est-à-dire que vraiment, je veux qu'on voit toute la sculpture de tout, tout, tout. On a 4 doubles pages avec une quarantaine d'images qui fait qu'on peut vraiment tourner autour et tout regarder de près comme
mais
de
loin. Mais je dois dire que c'est un des aspects très intéressants parce que ça rappelle quelque chose que moi, je sens très vivement dans cette sculpture et que votre livre, dans sa disposition et dans la maquette, exprime. C'est le vacillement du corps. C'est-à-dire que ce Bacchus est sublime parce que le corps vacille. On est presque dans une sorte de sculpture chronophotographique où plusieurs états du mouvement sont montrés simultanément. Et il est vrai que dans votre livre, que vous appelez BD, vous-même...
Hein, donc forme BD, voilà.
Forme BD, eh bien, on le ressent vivement. Et donc, rien que pour cela, en plus de votre texte forcément admirable, eh bien, rien que pour cela, je trouve que ça vaut vraiment la peine de se le procurer.
C'est gentil.
Cher Hector Obalk, oui. Est-ce que vous voulez bien me dire qu'est-ce qui va se passer dans l'œuvre de Michel-Ange qui va pas le pousser, qui va lui donner un génie équivalent dans le domaine de la peinture qu'à celui qui était plus le sien initial, qui était celui de la sculpture.
Ah ben, cet épisode incroyable qu'on appelle la Chapelle Sixtine. Donc, on va dire les choses un peu simplement. Michel-Ange a fait 2 tableaux dans sa vie. Un qui est un tondeau, qui est donc une œuvre circulaire, un disque, quoi, qui doit faire 1,20 m de diamètre. Puis une autre qui fait 500 mètres carrés. Ça s'appelle la Sixtine. Et cette Sixtine, il l'a fait en 4 ans. Et monsieur ne s'y connaît pas trop en fresque quand il commence la Sixtine. Et il commence pendant 4 années à la faire, entre 1508 et 1512. Et la première année, il cède d'assistant. Il les vire tous au bout d'un an et il s'y met tout seul comme un grand. Et là, il vit sa passione. D'ailleurs, il souffre énormément et son père a peur qu'il va mourir et que vraiment, il y a quelque chose de démiurgique, non seulement spirituellement, mais physiquement à avoir fait cette chose-là. Et on voit que Michel-Ange progresse comme un dingue. C'est-à-dire que la partie de l'entrée, si vous voulez, la Sixtine, c'est un couloir, hein, donc c'est une voûte, donc elle va d'un côté à l'autre, et donc du côté opposé à la chapelle jusqu'à la chapelle, il commence par le côté opposé à la chapelle, il progresse énormément.
Peut-être qu'il faudrait rappeler que la Sixtine était déjà peinte lorsqu'il est intervenu, c'est-à-dire que toute la partie basse de la chapelle Sixtine était peinte,
par
et on lui avait simplement...
Peintres, par les meilleurs peintres du 15e siècle.
Par Ghirlandaio
et Botticelli... Et d'autres.
Et au départ, il était question seulement de lui faire peindre les pendentifs de la coupole, me semble-t-il.
Alors, c'est un peu mystérieux parce que j'ai lu plein de choses contradictoires, mais je pense que finalement, il y a une tractation entre le pape Jules II et l'autre pour qu'il puisse prendre la totalité. D'ailleurs, pardon de le dire. Autant la Sixtine était du pur génie sur certains de ses ignodies, certains de ses registres, non seulement la création d'Adam, mais il y en a d'autres aussi qui sont assez fabuleux. Moi, je trouve que ce qu'il y a de plus beau, ce sont les prophètes et les sibylles. Mais j'aurais même insisté que ça a beau être la très très grande peinture, ce qu'il fait là, à ce moment-là, et qu'il arrive à maîtriser la fresque à partir de 1510, en gros, hein, c'est-à-dire à partir de moitié, 1510, 11 et 12, donc toute la partie qui va vers la chapelle, autant je voudrais quand même dire que c'est une catastrophe pour la chapelle Sixtine. La chapelle Sixtine était bien plus belle sans ce chef-d'œuvre. J'insiste là-dessus parce qu'on ne le dira jamais assez. Il a bousillé complètement l'harmonie qu'il pouvait y avoir dans cette chapelle, qui était remplie, si vous voulez, sur les parois et qui permettait d'être aéré en haut par un ciel comme il y en a dans chez Giotto, c'est-à-dire un ciel bleu étoilé d'étoiles en or. Bon, vous savez, les artistes, ils font là, on leur dit de faire. C'est-à-dire que ils sont fous, d'ailleurs, d'avoir tout détruit. L'important, c'est que tu fais ça, il le fait, vous voyez ce que je veux dire. Et je pense même qu'il y a eu des tractations d'une complaisance incroyable entre Jules II et Michel-Ange quant à la permission qui s'est donnée de mettre ses intercesseurs, qui devraient être des anges, en jeunes gens qu'on appelle ignudo au singulier, ignudi au pluriel.
Ces jeunes gens... Ça veut simplement dire qu'ils sont nus.
À poil, n'ont rien à faire dans une chapelle catholique, et il est évident que le pape Jules II a fermé les yeux dans une tractation dont personne ne parle jamais, mais qui, à mon avis, est très très claire. Michel-Ange travaillait à la gloire de Jules II, et pas seulement à celle de Jésus-Christ, puisqu'elle a mis des trucs de chêne partout, et que Jules II, comme vous savez, s'appelle Della Rovere, et que Della Rovere veut dire Duchesne, parce que c'est la famille Duchesne. Voilà.
Alors je vous propose, puisque vous l'évoquez, Hector Obalk, de d'écouter la lecture d'une lettre de l'Aretin, grand homme de lettres de la Renaissance, une lettre adressée à Michel-Ange et dans laquelle il décrit et critique la fresque de la chapelle Sixtine.
En tant que chrétien, j'ai honte de la licence si contraire à l'esprit que vous avez prise dans l'expression des idées touchant à l'accomplissement des aspirations de notre foi véridique. Ainsi ce Michel-Ange, d'une renommée étonnante, ce Michel-Ange, connu pour sa sagesse, ce Michel-Ange que nous admirons, a voulu montrer au monde autant d'impiété en religion que de perfection en art. Est-il possible que vous, à qui votre condition divine a fait dédaigner la compagnie des hommes, ayez commis ce péché dans le plus grand sanctuaire de Dieu, au-dessus du premier autel de Jésus, dans la plus grande chapelle du monde, où les cardinaux de l'Église, les prêtres vénérables, le vicaire du Christ dans les cérémonies catholiques, avec les ordres et les prières du ciel, confessent, contemplent et adorent son corps, sa chair et son sang. Mais ici, pour un chrétien qui attache plus de prix à l'art qu'à la foi, c'est un vrai spectacle que l'indécence avec laquelle vous figurez les martyrs et les vierges. Et le geste de saisir un damné par les membres génitaux qui ferait baisser les yeux de honte dans un bordel. Votre ouvrage aurait place dans une agréable étuve, non dans un cœur grandiose. Il serait moins grave de ne pas avoir la foi du tout que la manifestant ainsi d'insulter la foi d'autrui. L'Aretin, 1545.
Cher Obalk, nous sommes en train d'écouter ensemble l'Aretin, donc qui critiquait Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, probablement lié à des déceptions personnelles sur le programme qu'il avait suggéré et qui n'avait pas été suivi. Mais je pense que les éloges ont dû être aussi simultanés. Y a-t-il eu éloges?
Ce qui est intéressant dans la critique de l'Aretin, qui est une critique qu'on pourrait dire a priori pudibonde, elle est émise de la part de quelqu'un qui a aussi écrit des poèmes érotiques. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'Aretin n'est pas un pudibond, mais quelqu'un qui respecte les registres. C'est-à-dire qu'il pense qu'il faut être licencieux dans un cadre licencieux, et il faut être pudibond dans un cadre religieux.
Pourtant, Michel-Ange avait travaillé, on lui avait imposé de travailler avec de nombreux théologiens qui ont fait le programme.
Oui, et c'est un grand malheur pour les historiens d'art. Pour moi, c'est pas grand-chose, que oui, mes yeux suffisent. Mais on n'a pas retrouvé ce programme. Donc personne ne sait la vérité sur le programme de. On ne peut que le deviner. Là où c'est d'ailleurs un petit peu flou, parce que finalement ce programme se devine très bien. Mais le fait qu'il n'y ait pas de programme a permis à d'autres de délirer sur l'intervention de la cabale et je ne sais quoi encore pour expliquer des choses comme ça.
Est-ce que vous avez déliré vous-même en regardant l'œuvre? Parce que il y a une ou deux interprétations assez curieuses.
C'est assez simple. Moi, je ne délire jamais. C'est-à-dire, c'est ça l'histoire. C'est-à-dire, je pense que je ne fais que décrire ce que l'artiste a voulu faire. Et même à parfois raté. Même quand j'ai fait des ratages, je suis sûr que les ratages de Michel-Ange en étaient conscients. Donc moi, s'il y a quelqu'un qui ne délire pas, c'est moi. Et vous allez me dire de quoi vous parlez, parce que ça va pas très loin, ma métaphore. Vous voyez, elle relève de ce que j'appelle le délire exact, c'est-à-dire quelque chose qui est simplement dans la poésie des choses que l'on voit et que j'essaie de traduire en mots. Quand je montre la Sibylle de Libye qui a fait une torsion de gymnaste pour ouvrir un livre et que ça lui fait des ailes déployées, bon, bah, vous voyez, c'est une petite métaphore que je me suis permis, ça va pas très très loin de dire qu'elle a des ailes. Vraiment,
vous avez vu apparaître une femme dans un genou aussi.
Ah non, j'ai dit que je n'y croyais pas.
Et vous pouvez nous dire de quoi il s'agissait?
Oui, c'est une connerie que le guide d'ailleurs, ou plutôt le type qui m'avait emmené à la chapelle Sixtine la première fois que je suis allé, parce que je suis quand même allé quatre fois, pendant 4 heures à chaque fois, entre 18h et minuit. Ça te coûte une fortune d'avoir un échafaudage pour pouvoir...
Mais vous plaignez pas de quelque chose dont tout le monde rêve?
Non, mais j'aime bien que, que les gens sachent que j'ai eu le vertige.
Oui, il y a 4 pages sur votre vertige. Donc, ce qui est bien, c'est que vous vous intéressez aussi à vous-même dans ce livre.
D'abord, il n'y en a qu'une seule. Ensuite, j'aimerais beaucoup répondre à cette question parce qu'on fait souvent ce procès d'un certain narcissisme. Je voudrais juste dire que si jamais je ne suis pas présent, tout le monde s'ennuie. C'est-à-dire qu'il y a véritablement ce qu'on appelle un intercesseur qui fait que ça repose. Parce que le sublime, tout le temps, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un clown qui fasse ses clowneries pour que tout d'un coup, on puisse après repartir dans le sublime et l'idéal.
Alors, puisque donc il y a un corps que vous suggérez apparaître et que vous dites ensuite, mais c'est sans doute de la blague. Oui. C'est assez amusant parce qu'effectivement, quand on a vu l'image que vous avez prise, on le voit. Et il y a une autre étape qui effectivement est plus crédible, comme vous le dites, c'est que la création d'Adam.
Donc, je reprends ce que vous dites. Il s'agit de voir une sculpture à la Giacometti ou à la ce que vous voudrez, pas à la Giacometti, à la Brancusi ou ce que vous voudrez, dans le genou et le mollet du corps d'Adam. Vous voyez, avec le truc, avec le.
Ce qui n'est pas anormal qu'il ait une femme à l'intérieur de lui, puisque justement, on va en extraire une de lui-même.
Ok, bon. Donc ça, vous voyez, ça tourne rond, donc c'est bon. Et puis après, il y a cette idée de dire que la figure de Dieu entourée de ce voile mauve. Le mauve est très très présent dans la chapelle Sixtine. C'est très joli d'ailleurs, de cette présence du mauve. C'est la couleur peut-être dominante de toute la chapelle Sixtine, en tous les cas de sa voûte, entourée de ces comme ça d'une douzaine d'angelots, d'une jeune fille prépubère qui peut-être préfigure la Vierge, etc. C'est magnifique. C'est une des plus jolies sculptures. Je préfère beaucoup plus Dieu à Adam, d'ailleurs, personnellement. Et bien, ce tout-là pourrait dessiner la coupe d'un cerveau humain. Et c'est un médecin américain en 1975 qui l'a trouvé. Moi, je dis, allez, pourquoi pas. Vous voyez, c'est pourquoi pas. Vous voyez, ça ne me dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si tout d'un coup, ça permet de voir en mieux cette fabuleuse peinture qui fait quand même 7 mètres de large. C'est juste dingue. Quand on pense qu'un peintre d'aujourd'hui, il a quand même besoin de faire 6 mois pour faire un tableau de 7 mètres. Lui, il fait 500 mètres carrés en 4 ans. Bon, je passe sur ce petit épisode. Voilà.
C'est assez convaincant, la coupe du cerveau.
Oui, c'est assez convaincant. C'est assez convaincant. Il paraît qu'il y aurait l'aorte là, avec le passage du sang par lequel, je connais même pas le vocabulaire exactement des cerveaux. C'est assez convaincant, puis c'est très joli, vous voyez, comme idée, c'est très joli de savoir qu'il y a à gauche un homme tout nu et à droite un conglomérat de formes cervicales.
Alors je vous propose d'écouter à présent un texte bien plus tardif, un texte de 1830, par Eugène Delacroix, qui était un grand admirateur de Michel-Ange, comme quoi les artistes plus modernes ont réussi à avoir un intérêt qui se poursuivait pour cet immense artiste. Michelangelo Buonarroti n'est pas seulement l'un des plus grands sculpteurs, peintres et architectes de la Renaissance, mais il est aussi un poète doué dont le talent pour l'écriture est souvent oublié. C'est ce qui nous permettra d'écouter également un étrange poème de Michel-Ange juste ensuite.
Il ne faut pas être étonné du mépris des artistes médiocres pour ce sauvage génie. Ils ne peuvent s'empêcher de haïr ce style terrible malgré eux. Ils s'en prennent à lui du sentiment profond de leur impuissance et se rejettent alors sur les incorrections et les bizarreries, fruits de son caprice. De fait, ils ont beau jeu à lui reprocher son manque d'exactitude et les exagérations où l'entraîne le besoin irrésistible d'exprimer en tout ce qu'il y a de plus extrême et de plus violent. Eugène Delacroix, 1830. Amour, grotte fleurie, muse, ce que je chante ou gratte devient tambourin et papillote pour l'auberge, le lupanard ou les chiottes. Pourquoi faire tant de pantins si après ça je suis comme celui qui traverse la mer sans encombre et puis qui se noie dans un crachat? Mon art prisé si fort, qui me valut un temps si grande estime, enfin me réduit à ceci, que vieux et misérable et l'esclave d'autrui, je suis perdu si je ne crève promptement. Michel-Ange.
Hector Obalk, vous avez commenté avec nous, d'une part, le fameux Bacchus, une de ses premières sculptures, en tout cas une sculpture de jeunesse, et ensuite nous avons sauté, si j'ose dire, dans le ciel de la Sixtine. Michel-Ange, aussi fort et puissant pour vous, peintre que sculpteur ?
Alors, la grande, si vous voulez, limite de Michel-Ange, c'est sa puissance. C'est-à-dire qu'il n'est que puissant. Il ne connaît pas toute la palette des sentiments humains qu'on peut voir chez d'autres artistes.
C'est drôle, beaucoup d'artistes, et même Raphaël, qui le représente en mélancolique, et beaucoup de commentaires de l'époque en font justement l'expression de l'artiste déchiré. C'est un artiste douloureux, déchiré, qui s'affronte à la complexité des sentiments. Il n'est pas que puissant, il est aussi tourmenté.
Alors, d'abord, l'un est le revers de l'autre. Si vous êtes assoiffé de puissance, comme Michel-Ange, fatalement, vous tombez dans les mains collées assez vite. Et d'autre part, vous êtes totalement, constamment déçu. Il faut voir quand même ce qui se passe après la Sixtine. De toute façon, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux, vous voyez ? Il a peint à l'image de Dieu la création d'Adam, qui est celle même de la création de la sculpteur qui est peintre.
Eh bien, 20 ans plus tard, il y a la dernière partie de la Sixtine, qui est le jugement dernier, par exemple.
Qui est une catastrophe, qui est une laideur totale, qui est une kitscherie absolue, qui est vraiment... c'est rien à côté de la finesse, la beauté, la justesse de ce qu'il y a dans la voûte. C'est-à-dire, le jugement dernier, c'est vraiment pas ce qu'il a fait de mieux. Et puis surtout, on parle pas de toutes les œuvres dont on regarde pas. Là, comme il y a une autre qui s'appelle la chapelle, je sais plus quoi, qui se trouve au Vatican, qui est immonde. J'ai oublié son nom.
La chapelle Médicis.
Non, Varfarnès. Au Vatican.
Je croyais que vous parliez du tombeau
de Jules II. Après, il y a d'autre part, il faut bien voir. Après 1512, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le Moïse, qui est une œuvre inachevée puisqu'elle devait faire partie avec les prisonniers du tombeau de Médicis, finalement elle ne le fait pas. Et puis il n'y a plus que des œuvres plus ou moins inachevées. Parce que pour Michel-Ange, le marbre n'est jamais assez beau, il n'est jamais assez grand, ça va pas, ça va pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait, ce Michel-Ange? Il ne fait plus que 5 ou 7 sculptures entre 1512 et 1564, après les chefs-d'œuvre, qui sont autant d'œuvres d'art que d'artistes qui auraient pu naître de ces œuvres d'art avant la Sixtine. Il y a là une décadence chez Michel-Ange, qu'on n'a pas assez dit. Et dont l'aspect le plus émouvant, le plus beau, le plus sublime, c'est dans le brouillon des peintures, des fresques et des sculptures qu'on appelle les dessins. Les dessins de Michel-Ange, c'est quelque chose.
Les sculptures inachevées de Michel-Ange, vous savez, Malraux disait, c'est Michel-Ange, Léonard de Vinci, c'est deux génies de l'inachevé, comme si seul l'inachevé pouvait exprimer l'infini. Ont suscité l'admiration, et encore aujourd'hui, de la plupart des regardeurs, qui les trouvent encore plus beaux que le David.
Mais ils ont quelque chose d'émouvant, sauf que moi je vois aussi la densité, c'est-à-dire que s'il faut 50 ans de sa vie pour avoir 3 sculptures inachevées, notamment celle du corps délabré, si vous voulez, délabré, c'est-à-dire c'est intéressant, il a tout fait dans le corps, il a fait le corps en mouvement, le bacchique, il a fait les corps des ignoudis qui sont tous plus séduisants les uns que les autres quand on est un homosexuel comme lui, et puis il a fait évidemment ce mélange d'adolescents et d'hommes qu'on appelle qui est celui de David, et puis il fait les corps délabrés dans des sculptures particulièrement émouvantes qui sont les 2 ou 3 dernières Pietà qu'il fait à la fin de sa vie.
Et donc la dernière Pietà n'est-elle pas qu'il a fait, qui est son chef-d'œuvre ultime, n'est-elle pas extraordinaire bien qu'inachevée? Est-ce que ce n'est pas
non,
de...
c'est pas Est-ce... mal. C'est pas mal, ça va pas me suffire, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça va pas me suffire quand je vois, quand je vois que je passe d'un prophète et d'une sibylle et que j'ai l'impression que je fais des pas de géant, là, tout d'un coup, c'est des pas de fourmi en 50 ans de sa vie. Il y a quand même un problème, et je pense que ce problème, c'est un problème de mégalomanie qui est un problème de mélancolique. Vous voyez, les mélancoliques sont mégalomanes et les mégalomanes sont mélancoliques. Vous voyez, c'est ça le problème.
Vous préparez maintenant un travail avec un autre grand mélancolique, qui est Pontormo.
Qui est un génie à côté de lui, d'ailleurs, qui est beaucoup plus beau. Il est moins connu, c'est sûr, parce qu'il n'a pas eu de la chance. Il n'a pas eu de chance. Toutes les fresques magnifiques qu'il a faites ont été dans des cloîtres, c'est-à-dire dans des choses à l'extérieur. C'est pas des cloîtres, c'est le truc à l'extérieur dans une église, là où il y a la pluie qui tombe et tout ça. J'oublie.
Un cloître, ça s'appelle un cloître.
Ça s'appelle un cloître. Et parfois, je suis pas trop mauvais, comme j'ai fait, je me gourre aussi, c'est horrible. Et donc, elles ont toutes été abîmées, voire, elles n'existent plus du coup, il ne reste plus que 3 tableaux de Pontormo, dont celui de la Felicità, sur lequel vous avez fait une excellente émission. Qu'est-ce qui fait la différence entre Pontormo et Michel-Ange? Et là, je m'en suis aperçu, parce que je suis dessus et ses dessins sont juste sublimes, c'est que tandis que Michel-Ange, pour donner du nerf à ses dessins et de l'expressivité à ces anatomies, demande à ces modèles de suivre des lignes plus artificielles les unes que les autres, comme je vous ai parlé de lignes droites alors que le corps n'est pas droit, et de cabines téléphoniques dans lesquelles ils doivent s'engouffrer comme un acrobate se met dans une caisse, dans un mouvement de cirque, etc. Lui, au contraire, à chaque fois, on se rend compte, il leur demande que des positions naturelles. Et la complexité du naturel devient bien plus extraordinaire que celle de naturel et des lignes du corps du naturel que celle qu'impose Michel-Ange à ses modèles. Tout d'un coup, on se rend compte qu'il les a sortis de la boîte michel-angelesque pour les laisser, comment dirais-je, dans des poses qui sont ni des poses de gens qui dorment, ni des poses de gens qui sont inertes, ni des poses de gens à qui on demande des figures dingues, et qui sont d'une complexité, d'une subtilité. Il y a tout d'un coup des dissymétries entre les omoplates, enfin des choses que Michel-Ange ignore complètement.
Oui, mais il y a quelque chose dont vous pourriez parler, peut-être, c'est la couleur. La couleur, vous dites que les poses sont naturelles, la couleur ne l'est pas. Il n'y a rien de plus non naturel, probablement, que la couleur de Pontormo, qui vient de Michel-Ange. Donc, d'où vient la couleur de Michel-Ange? Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout à l'heure, vous disiez, mais il y a du mauve partout.
Non, c'est beau. C'est assez beau. C'est assez beau en sculpture, c'est assez beau dans les fresques. Il a trouvé quelque chose. Enfin, d'abord, il n'y a pas d'espace, alors que chez Pontormo, il y a un espace fabuleux.
Enfin, vous parliez de la Santa Felicita, il n'y a pas un centimètre
de paysage,
sans figure.
Il n'y a pas un centimètre.
Il y a juste un petit. Là, il y a un centimètre, il y a un nuage.
Il y a en effet pas, comme vous avez tout à fait raison de le dire, mais il y a une perspective à l'intérieur des
entre les corps,
les corps, etc., dont Michel-Ange est complètement incapable. Et surtout, il y a du vide entre les choses, que lui, c'est pas la peine d'y penser, il ne connaît que le diable qui sort de la boîte, c'est-à-dire qu'il ne connaît que, si vous voulez, des images centrales, ce ne sont que des images centralisées, les prophètes et les sibylles de Michel-Ange. Et puis, il a une subtilité de coloris beaucoup plus large, à mon avis. C'est-à-dire qu'il a une touche. Il a une touche à la De Sarto avec un dessin michel-angelesque, Pontormo. Alors que la touche, au sens touche, vous voyez, de Michel-Ange, bon, elle annonce Bronzino, c'est vrai. Elle reste un peu glacée pour moi. En tant que peintre.
Pardon. Et pourquoi cette recherche des artistes de cette période, qui est là cette fois-ci le maniérisme, de sortir du naturel à ce point-là?
Alors, d'aller le chercher tout en sortant, c'est toute l'histoire, elle est là, je pense. Franchement, c'est ça. Tiens, on va lui faire faire une pose de dingue et on va voir quel naturel va en sortir. Il s'agit toujours d'un truc comme ça, si vous voulez. Et puis, de toute façon, c'est l'époque du maniérisme, on sait tout faire. On sait ce que c'est que la peinture à l'huile, on sait ce que c'est que l'anatomie, on sait dessiner des corps, on connaît la perspective, on connaît tout ça. Donc, il va falloir trouver quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Eh ben, on joue sur les formes, on va tricher sur les formes, on va tricher sur les couleurs, on va tricher sur la perspective et on va faire du maniérisme.
Et des chefs-d'œuvre. Merci, Hector Obalk.
Merci.
Je crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
C'était Les Regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons scruté une sculpture en marbre, le Bacchus de Michel-Ange, conservé au musée du Bargello à Florence. Pour en parler, nous étions en compagnie du réalisateur et critique d'art Hector Obalk, auteur d'un livre d'art en BD consacré à Michel-Ange, intitulé Michelangelo, tout Michel-Ange ou presque en un seul récit et 1000 images, volume 1 aux éditions Hazan. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et du site internet, Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes, Lara Brûle, à la technique, Pierre Mine. Réalisation, Franck Lilin, merci Franck. Les Regardeurs, une émission remarquablement préparée par Sandra Adam. Une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam.
Come before you go, babe. Go until you come, babe. Come until you go, babe. to go with.